Les terrasses de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour et bienvenue dans les terrasses de Manu, l'émission qui vous emmène au restaurant. Et depuis le début de l'été, je vous invite chaque semaine à découvrir des bonnes tables avec une belle terrasse, puisque c'est l'été, un jardin, un patio ou des tables situées au bord de l'eau, pourquoi pas. Et pour changer un peu, je suis allé tester ces restaurants en compagnie de mes invités surprises. Et ce sont ces invités qui vous disent ce qu'ils ont pensé du restaurant en question. Alors cette semaine, on reçoit un récidiviste, puisqu'il est déjà venu nous parler du restaurant Grand Cœur. Oui. Dans une émission précédente. Il est journaliste, directeur du magazine en ligne 7 de table. Il anime aussi des manifestations littéraires, hein, c'est ça?
Aussi, oui.
Voilà, c'est Fred Ricou qui est avec nous.
Bonjour Fred. Miguel. Bonjour à tous.
Alors avec nous également dans les terrasses de Manu, elle est chanteuse, comédienne. Hein, c'est un peu la Madonna française, moi je trouve.
Hein. Waouh.
Bah oui, non mais j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir un parti pris. Alors les gens qui ont entre 35 et 40 ans l'ont sans doute connu dans la série Seconde B. Hein, c'est ça, au début des années 90.
C'est ça.
Et c'était le rôle de Nadia. Donc c'est Isa Ferrer qui est avec nous.
Bonjour Manu.
Moi j'étais un groupie de Seconde B.
C'est vrai.
Oui. Ah, non, j'adorais. Voilà. Non, franchement, c'est une série que j'aimais beaucoup.
C'est ça, c'est la cible. Hein.
Voilà,
5-40 ans.
On y est.
On est en plein dedans. Et puis depuis longtemps aussi, chanteuse.
Oui. Hein. J'ai toujours fait les deux en même temps. Il se trouve que j'ai commencé par la comédie avec cette série. Donc en réussissant le casting de Seconde B il y a un petit peu longtemps maintenant. Mais mes rêves de petite fille, c'était vraiment être chanteuse et comédienne. Et je poursuis ma route en essayant de réaliser tous mes rêves.
Eh ben oui, ben justement, d'ailleurs, mes rêves, c'était le titre, le single qui vous a fait connaître, Isa.
En 98.
Eh ben on va écouter un petit bout de mes rêves. Voilà mes rêves, le single qui vous a fait connaître. Il y avait aussi un autre single, je crois à peu près à la même époque, qui s'appelait 109.
En 95.
En 95, je me trompe toujours. Hein.
Non, c'est ça.
En 96, 109, etc.
Non, à l'aise en 96.
Voilà.
Et puis la rime.
Alors, ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes né à Oran.
Oui.
Eh oui.
Je suis une Oranilla.
Oranaise.
Oui.
Pur jus.
J'ai passé les deux premières années de ma vie, en fait.
Ce sont les plus belles.
Voilà. Je ne me rappelle pas de tout, mais c'est vrai qu'après, j'ai eu l'occasion d'y aller en vacances chaque été dans ma famille à Oran, parce que ma grand-mère habitait à côté, un petit village. Et c'était un petit peu la tradition d'y aller l'été, passer deux mois là-bas. Que des bons souvenirs.
Ah bah j'imagine. Alors quand on est oranaise, par contre en revanche quand on cherche du boulot, qu'on fait des CV, c'était peut-être un peu moins un bon souvenir.
C'était un petit peu compliqué d'arriver à
Paris. Vous avez parlé de ça dans une chanson je crois. Hein.
Oui, alors j'ai parlé de ça dans la chanson, en fait mon premier clip c'était À coups de Tipex. C'est un titre qui fait partie de mon premier album d'Essence Naturelle. En fait, c'est un constat. C'est vrai que moi, j'arrivais de né à Oran. J'ai passé mon adolescence en Savoie, parce que j'ai une maman savoyarde et un papa oranais. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, en me mettant un petit peu à la chasse au casting et au rôle, je me suis trouvée confrontée au... Je ne vais pas dire au délit de faciès, mais c'est vrai que quand on arrive avec un nom et un prénom oriental...
Oui, parce que Lisa Ferrer, évidemment, voilà, c'est votre nom d'artiste.
Exactement. C'était très compliqué, donc j'ai très vite compris qu'il fallait un petit peu modifier les données de mon CV, notamment les origines, le nom, pour accéder au moins au casting, parce que sinon, voilà, il s'arrêtait à une apparence et ah ben non, il n'y a pas de rôle de beurette, mais on peut s'appeler comme ça et ne pas, enfin, et avoir un rôle tout à fait normal de n'importe quoi, d'infirmière. Et c'est Leïla Bekti qui m'en parlait très très bien. Je la connais un petit peu. Et elle me disait, moi, quand je regardais Seconde B, je rêvais d'être Nadia. Et en fait, je disais, mais Leïla, tu te rends pas compte que c'est maintenant que t'as énormément de chances d'être née après moi, finalement. Et parce qu'elle accède à des rôles dans Maintenant ou Jamais, où elle s'appelle Juliette. Chez moi, à l'époque, m'appeler Juliette en étant toute brune, frisée, c'était la quatrième dimension. C'était de la science-fiction. Ça n'existait pas. Il fallait s'appeler Nadia, Fetiha, Wardia, enfin... Et voilà, je trouve ça regrettable, parce que pour quelqu'un né en France, c'est... voilà.
Alors, dans ce single, à coups de Tipex, de Tipex, justement, vous expliquez un petit peu les coups de Tipex que vous
exactement,
mettiez sur le CV de temps en temps pour vous adapter
variable.
Au rôle.
Voilà.
C'est ça, oui. Un jour, j'ai décidé de me faire taper des CV à données variables, car le mystère, c'est périssable. On va écouter un petit morceau. C'est une
très
émission
bien.
Gastronomique, mais enfin bon, on a la chance d'avoir Isa Ferrer avec nous, donc on va pas se priver. On va écouter un petit bout de à coups de Tipex aussi.
À coups de Tipex à l'arme blanche, à coups de Tipex je montre patte blanche. Un jour j'ai décidé de me faire taper des CV et à donner variables, car le mystère c'est périssable. De Tipex, je fais voyager mes origines, Madrid, Aix, Constantine. Ça m'amuse de mener en bateau de plaisance ce qui ne se fie qu'aux apparences. À coup de Tipex, coup de Tipex, je décolle les étiquettes, je décode pas.
Voilà, coup de Tipex, donc votre expérience de recherche d'emploi avec un CV à géométrie variable.
Usurpatrice de personnalité et de personnage.
C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, un CV à géométrie variable pour une comédienne, c'est aussi...
C'est logique.
C'est aussi
c'est
logique.
La base.
Hein,
c'est, ah ben oui, complètement.
C'est presque formateur, peut-être,
non ? C'est formateur, on est là pour incarner des personnages, donc autant les incarner dès le début.
Bon, et alors, on va pas parler que de ce que vous avez fait dans les années 90, parce que vous avez quand même une actualité.
Oui.
Vous venez de sortir un single, oui. Avec un album qui va sortir aussi.
Oui, mon sixième album.
Sixième album.
Qui va sortir très bientôt, oui.
D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de cet album. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans un registre un peu plus électropop, je dirais.
Oui.
Enfin, je sais pas comment le qualifier, mais.
J'ai toujours qualifié ma musique de pop cosmique.
Oui, c'est ça. C'est vos fans qui qualifient votre musique de.
C'est difficile de qualifier une musique parce que je suis pas bloquée dans un certain genre, un certain style musical. J'aime beaucoup de choses. J'ai des goûts très éclectiques. Je peux faire j'aime le funky, le rock, l'électro, la dance. Et en même temps, j'adore faire des concerts acoustiques avec simplement chanter avec une guitare ou un violon, un piano. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Et je trouvais que de par la présence tout le temps de sons un peu électroniques, je trouvais que le terme cosmique me correspondait plutôt bien.
Bah oui, en plus, ce sont aussi vos fans qui vous... Alors vous êtes un peu une icône gay aussi, Isa.
Oui, bah ça c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. En même temps, je pense que c'est pas vraiment la peine de l'expliquer, c'est venu comme ça. Je pense qu'on a une sensibilité commune. On a des goûts communs, une manière de vivre peut-être aussi, de faire la fête et peut-être qu'il se retrouve vraiment dans mes textes, dans mes musiques, dans mon personnage.
D'accord. Bah écoutez, on va parler un petit peu de gastronomie après quand même, mais bon, ce single donc là qui vient de sortir, qui s'appelle Nessou X. Alors Nessou X, pourquoi ?
Alors c'est pas parce que je suis une anonyme.
Non, ça on sait que vous ne l'êtes pas.
Ou que je n'ai pas été reconnue par mes parents. C'est en fait j'ai voulu marquer la génération X, celle des gens qui ont grandi dans les années 80. Mon album à venir s'appelle s'appelle XYZ. D'accord. Et en fait, en faisant pas mal de recherches, parce que les sociologues sont intéressés aux générations X, aux générations Y et aux générations Z, à la génération Z, je trouvais que j'avais un petit peu parcouru les trois générations, de par ma naissance, de par mon adolescence, et puis maintenant que j'ai des enfants, donc eux, c'est la génération Z, et j'ai l'impression d'avoir parcouru en fait toutes ces trois générations qui sont un petit peu à l'intérieur de moi. Donc chaque chanson, enfin chaque air, on va dire que j'ai découpé mon album XYZ en trois EP de quatre titres, où justement il y a des références à chaque époque.
D'accord, et ben justement on va écouter un petit bout de Né sous X, et puis après on va parler de gastronomie, ce qui nous intéresse généralement dans les terrasses de Manu.
Bébé de baby boomer à l'arrière d'une BX. Souviens-toi, remember, toi qui es né sous X. Embrasse-moi, idiot, au lieu de ma tête en X. L'amour, ça rend les beaux. Get ready to spritz. To mix. Génération X. Gen X. On nous croyait perdus, rien n'est jamais perdu. Once you pop, you can't stop. Le soleil vient de se lever, fraîcheur de vie. Il fait trop chaud pour travailler, merci la vie. Dis papa, comment on fait les bébés? Les volcans dans la purée. Le soleil vient.
Fleur FM, les terrasses de Manu avec Manuel Mariani.
Alors de retour dans les terrasses de Manu, on vient d'écouter Né sous X, le dernier single d'Isa Ferrer sur son album à venir. Alors l'album lui complet, il sort quand, Isa?
Je pense en fin d'année ou alors en tout début d'année prochaine.
D'accord, et un petit peu de scène de prévu.
Oui.
Parce que vous êtes une showgirl quand même aussi. Hein,
J'adore. J'ai découvert ça. La première scène, c'était à la Nouvelle Ève. J'ai fait ensuite Bobino, l'Alhambra, le Bataclan, dernièrement La Cigale, avec mon dernier album Sanguine. Et j'ai vraiment hâte de retrouver la scène.
Bah, on a hâte de vous retrouver sur scène également. Alors sur la scène de Beurre FM aujourd'hui aussi également, Frédéricou.
Chante-moi bien.
Non mais je sais pas, mais vous dansez pas mal, puisque vous avez un peu bougé pendant les extraits musicaux.
Non, je bouge hors rythme en fait.
D'accord,
je suis toujours à contre-temps.
Très bien.
quand j'étais ado, justement à l'âge où je regardais Seconde B, mes amis avaient honte de moi en boîte et en soirée, parce qu'en fait je danse à contre-temps. C'est problématique.
Et alors vous êtes venu avec votre prof de danse, c'est ça?
C'est ça, qui est ma fille, qui a 8 ans.
Ah d'accord.
Et qui est là avec moi, Gabriel, voilà.
Et bah, on salue Gabriel.
Voilà, on verra si elle parle.
Alors Gabriel, c'est quoi? C'est la génération de Johnny Hallyday, Gabriel?
C'est ça, non, pas du tout. Non, ce serait plutôt la génération Gabriel Solis, en fait.
Ah d'accord.
Voilà,
là on rentre dans des références un peu plus culturelles.
En fait c'est ça, on a trouvé le prénom sensiblement quand on regardait. On s'est dit, tiens, c'est effectivement, alors, en plus le prénom est très... Le prénom est très, on va dire, beaucoup de garçons s'appellent Gabriel, puis effectivement c'est parti des 3-4 noms qui sont très portés, mais par contre pour les filles,
ça aurait pu être la Gabi de Bachung aussi.
Ça peut être la Gabi de Bachung, c'est pas faux. Ouais, exact. Alors, c'est quand même plus ça les références, plutôt que Gabriel de Johnny, quoi.
Fred, la dernière fois qu'on s'est parlé sur l'antenne de Beurre FM,
oui.
On parlait du restaurant Grand Cœur.
Oui.
Vous étiez en train de prendre la direction du magazine dans les
Mercedes
de table.
J'ai pris la direction.
Ça y est, c'est vous le boss.
Encore 2-3 papiers à régler, mais on va dire effectivement. Oui, le site, c'est un site qui existe depuis 2 ans, en fait, que je n'avais pas créé à la base, mais je me suis retrouvé à travailler. Les personnes qui l'ont créé m'ont dit, bon, à un moment, voilà, nous, on a d'autres choses à faire, c'est compliqué, etc. On a des vies, donc j'ai dit, bon, écoutez, je reprends la chose. Voilà, donc ça s'est pas fait rapidement, mais ça s'est fait, effectivement. Maintenant, je suis très, très fier, effectivement, d'être le responsable de ce site, où l'on parle, effectivement, on va parler gastronomie.
Oui, alors, cette de table, j'imagine qu'on parle
de, table, voilà. Déjà,
de ce qui se passe à table.
C'est avec le chiffre 7, hein, pour le jeu de mots, parce que ça nous fait rire. Voilà, et donc, effectivement, on parle de... on va dire simplement, on parle de tout ce qui se mange et qui se boit, mais c'est un site grand public, c'est un site assez ouvert. On est on va pas faire l'actu des chefs, etc. Enfin, on va en parler aussi, mais voilà, on va essayer d'être le plus grand public possible.
D'accord.
Mais surtout, effectivement, de parler de bons produits, de parler de cuisine intéressante, de parler de tout ça, effectivement. Ouais, ouais.
Très bien. Et donc, des nouveautés à venir sur le. Donc, c'est 7detable.com, c'est ça le.
C'est 7detable.com, tout à fait, ouais. Avec le chiffre 7.
Avec le chiffre 7, c'est ça.
Voilà, 7detable avec le chiffre 7. Et les nouveautés, voilà, on veut essayer effectivement de développer 7detable. On veut développer la vidéo, ça marche très bien sur les réseaux sociaux. Donc, on veut essayer effectivement d'en être aussi, comme on dit. On veut aussi, chose qui marche très bien actuellement, c'est faire un podcast. Ça, on y tient. On va certainement même travailler le podcast avant la vidéo. Voilà, on va voir ça effectivement, comment on peut le travailler. On va essayer de réfléchir nous aussi, là, début 2019. On va essayer de faire ça, ou peut-être pour la rentrée prochaine. Enfin voilà, enfin on est sur les dossiers, on travaille.
D'accord. Donc, et, ouais, site gastronomique et multimédia, multicanal.
Ouais, ouais, multicanal, multimédia. On essaye d'être présent sur les réseaux sociaux. On essaye d'être présent à la fois sur Instagram où on met des jolies photos. Enfin, justement, la soirée, si les gens vont directement nous voir, j'ai mis les plats dont nous allons parler dans quelques minutes.
Effectivement.
Ils sont en photo sur Instagram, sur le compte de 7detable. Donc comme ça, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Hein. Vous mettez justement les photos de ce qu'on mange, Manuel, sur le site de Beurre FM ?
Alors, sur le site de Beurre FM, non, mais j'ai toutes les photos.
Donc voilà, donc
j'ai même la vôtre.
De très jolies photos d'ailleurs.
Oui.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a la mienne en plus.
On parlera de mon téléphone portable tout à l'heure, Isa. Très bien. Alors, justement, donc on est allé récemment au Lumen, qui est un restaurant d'hôtel, et on va, juste après la pause, parler un petit peu de ce que nous avons mangé, puisque c'est quand même le sujet de l'émission. À tout de suite, on se retrouve après une courte pause.
Les terrasses de Manu reviennent dans un instant. Les terrasses de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans les terrasses de Manu avec mes invités du jour, Fred Ricou, donc directeur du magazine 7detable.
Bonjour Manu, rebonjour.
Rebonjour, et également animateur de rencontres littéraires,
oui,
manifestations littéraires.
En fait, pendant longtemps, j'ai été spécialiste en littérature jeunesse et j'ai fait effectivement beaucoup de salons du livre où je discute avec les auteurs, je m'y intéresse toujours, etc. Mais effectivement, maintenant, je suis plus passé du côté gastronomique de l'histoire, quoi, de mon histoire.
Très bien, également avec nous Isa Ferrer, qui est venue nous parler de son album à venir,
oui. Hein,
de son single Né sous X et de son album à venir, mais surtout on va parler de gastronomie, après de cuisine chinoise mais gastronomique. Mais en attendant, avec
japonaise.
Fred...
Ah non, pardon, j'étais déjà dans mon.
Non, mais effectivement, on était dans une semaine un peu asiatique. Dans une semaine un peu asiatique. Alors, Frédéric, nous sommes allés dans un restaurant d'hôtel.
Oui.
Alors, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément le réflexe, l'idée. On n'ose pas forcément rentrer dans un hôtel pour aller dîner.
Oui, c'est vrai.
Hein, souvent, alors que les hôtels souvent recèlent des très bonnes tables. Et c'était le cas ou pas, alors, au Lumen où nous sommes allés.
Ah, c'est une très bonne table, Lumen. Ah non, franchement, non, c'est. Et ce qui est amusant, effectivement, c'est quand vous m'avez invité, vous m'avez dit, tiens, viens, c'est un chef japonais qui fait de la cuisine italienne.
Ouais, Akira Sugiura.
Voilà. Et là, déjà, tu fais, ah, intéressant, parce qu'effectivement, on se dit, effectivement, enfin voilà, on a l'habitude de croiser des restaurants italiens. Il y en a en plus de plus en plus d'excellents restaurants italiens qui ouvrent un peu tous les jours. Et là, tu dis, tiens, effectivement, qu'est-ce que ça donne un japonais qui cuisine italien ?
Oui, alors, on peut pas affirmer exclusivement que c'est un restaurant italien, parce que c'est vrai que c'est une cuisine.
Voilà.
C'est un chef qui a travaillé en cuisine française, en cuisine italienne, mais qui a aussi ses origines japonaises. Et en fait.
Et justement, lui, il fait un mix de tout ça, quoi.
Il fait un mix de tout ça, et c'est vrai que c'est assez surprenant, quoi.
Il fait un mix de tout ça, et c'est vrai que c'est très surprenant, là. Qu'est-ce que. On parle déjà des plats ou.
Ah, mais on peut, parce c'est... que. Alors, justement, parce qu'on a, du coup. Comme on avait envie de découvrir la cuisine de ce chef, on est parti sur le menu carte blanche,
oui. Hein,
qui est un menu un peu comment dire,
on peut goûter, avec la,
ouais, un peu un roman fleuve, hein, ce menu, parce que c'était en six étapes plus les amuse-bouches,
à peine deux entrées, deux plats de pâtes et une viande.
C'est ça. Enfin, il y avait trois amuse-bouches, deux entrées, deux plats de pâtes, un plat de viande. Enfin bon, C'était un roman fleuve, on peut le lire.
Il faut dire aussi que c'est en proportion très correcte. Hein. On va pas se faire le gros plat de pâte, les deux gros plats de pâte. Non, c'est quand même, on se fait ça en 4-5 bouchées à chaque fois.
Évidemment, parce qu'on tient à garder notre sveltesse.
C'est ça, notre ligne.
Bien sûr.
Merci Isa, pour votre soutien.
Mais voilà, effectivement, on a commencé. Bon, hormis les antipastes, presque.
Oui, les petits amuse-bouches.
Les petits amuse-bouches, effectivement, on a commencé par une revisite un petit peu du tomate mozzarella.
Ouais, un gazpacho de tomates et fraises granité pastèque.
Je parlais pas de ça, moi, patron. Mais
vous étiez directement à la première entrée.
J'étais dans l'entrée, en fait.
Homard et betterave, tomates noires de Crimée, espuma de mozzarella et une sauce calamansi.
Et ça, c'est très très bon. Ça, on commence par là. Juste la première bouchée, on fait ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Et donc, c'est toujours intéressant. Moi, j'adore les premières bouchées au restaurant parce que. En général, ça augure du bon pour la suite.
Ouais, et moi sur cette entrée-là, ma première bouchée c'était le homard et la cuisson était remarquable.
La cuisson est fantastique.
Alors ça c'est vous qui faites beaucoup de tables aussi pour votre magazine en ligne, cette de table, c'est vrai que c'est une particularité des chefs japonais, c'est la justesse des cuissons. Oui. Hein. On a l'impression qu'à la naissance, chez les Japonais, il y a un gène, c'est dans l'ADN, c'est je sais cuire parfaitement les aliments.
Ouais. En général, de toute façon, la culture japonaise est très précise.
Oui, tout à fait.
Donc il y a une précision dans tout. Pas que dans la cuisine.
Mais c'est vrai, Isa, j'oubliais que vous connaissiez les trois alphabets japonais par cœur.
L'hiragana, le katakana et le kanji.
Eh ben voilà.
Manu, j'ai pas révisé cette nuit pour toi, mais.
pourtant, je suis un peu déçu.
Dire deux trois choses quand même.
D'accord. Bon, alors.
Mais c'est vrai que par rapport à la précision, il y a une école japonaise. Enfin, quand il y a. Il y a un excellent documentaire sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, sur ce chef japonais qui a 85 ans, qui continue à faire, il fait ça depuis 50 ans, Ojiro, c'est ça? Je ne sais plus, j'ai un trou d'un coup. Et donc ça fait 50 ans qu'il travaille effectivement le sushi. Voilà, qui est un plat de fête.
C'est un art, le sushi.
Nous, on va manger des sushis, etc. Voilà, mais au Japon, c'est vraiment un vrai plat de fête.
Oui, en France, souvent, les restaurants à sushis sont tenus par des Chinois, qui ont des chefs qui ne sont pas chinois non plus, qui ne sont pas japonais non plus, pardon.
Je fais mes sushis.
Il explique effectivement.
Chef sushi, il a fait rire.
Et dans ce documentaire, le chef explique qu'il a passé déjà 5 ans à faire cuire le riz. C'est tant qu'on ne maîtrise pas la culture du riz, on ne passe pas à l'étape suivante. Et donc, effectivement, la cuisson est toujours maîtrisée. Et là, effectivement, sur le homard, c'est fantastique. Quoi. Non, c'est une tendreté exceptionnelle. Non, c'est très, très bien.
Et puis, d'ailleurs, si on va manger dans les grands restaurants à sushi du quartier de Ginza au Japon, le riz est cuit à la commande. C'est-à-dire que le temps qu'on mange les premières entrées, les premiers sashimi, etc., on cuit le riz parce qu'on demande même la cuisson du riz au client.
Ah oui.
Est-ce que vous l'aimez un peu ferme, pas trop ferme, etc. Et le riz est cuit. Enfin, la cuisson du riz, c'est vraiment un art et c'est vraiment.
Et les sushis sont faits en face, etc.
Absolument, tout à fait.
Ils s'adaptent en plus à la bouche, à la morphologie des clients pour faire des plus ou plus, moins grosses bouchées.
Ah oui, ils vont faire des gros sushis.
C'est ça, 1,5 kg. 1,5 kg de sushis, c'est surprenant la première fois, mais c'est possible.
Alors, puisque juste après, on avait une deuxième entrée qui était un peu japonisante, c'était un tataki de bœuf wagyu. Oui. Alors, tataki de bœuf wagyu ozaki, des pickles de shishito, radis blanc d'aïkon et purée d'ail noir. Alors, le tataki, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une façon de cuire.
Ouais.
Voilà, on saisit juste l'extérieur d'une viande ou d'un poisson. Mm. Et après, on le coupe en fines lamelles. Et là, en plus, c'était avec.
C'est ce qu'on pourrait faire un peu la cuisson bleue chez nous, quoi. Ça peut se rapprocher.
C'est ça,
bleu.
Voilà. C'est vraiment saisi à feu très vif. Mm. Et puis, ça reste cru à l'intérieur. Donc ça, une entrée très sympa. Ça ressemblait à un carpaccio un petit peu de.
C'est ça, entre le carpaccio et si c'était pour rapprocher un peu avec la cuisine italienne, on pourrait dire un peu le vitello tonnato. S'il y avait un petit côté vitello tonnato, c'est un mélange de veau. C'est un plat très connu
en Italie.
C'est de veau et de thon. Et là, effectivement, avec le wagyu qui est un peu comment on parlait du Wagyu, c'est un peu le caviar du carnivore, le Wagyu. Quoi.
C'est ça, c'est, voilà. C'est ce fameux bœuf qui est chouchouté, massé.
Je sais plus si c'est à la bière ou au saké, je ne sais plus, mais enfin, en tout cas, ça. Voilà.
Voilà, mais bon, effectivement, c'est du bœuf qui est chouchouté, qui est nourri avec des très bons aliments.
Voilà.
Il y a même certains élevages de bœuf Wagyu au Japon, on leur met de la musique classique parce que ça les,
ah, ça les détend.
Ah oui, absolument. Et en fait, on leur met pas d'huile afférère, on pourrait leur suggérer. On pourrait leur suggérer.
C'est un bœuf qui est assez gras, mais c'est du bon gras. Et c'est surtout un gras extrêmement fondant.
Oui, c'est pas du gras qui a un goût de rance comme le mauvais gras de vache de réforme, on va dire. C'est du bon gras parce que ça existe, le bon gras.
Et là, donc, très peu cuit donc en tataki. Ça, c'est fantastique. Effectivement. Et donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un côté croquant avec les petits radis et le daikon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, c'est croquant et c'est fondant avec, effectivement, avec le wagyu. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que j'en parlais à Isa tout à l'heure, effectivement, hors coulisses. Il y a les fameuses petites feuilles de shiso sur le dessus. Alors, effectivement, il y a beaucoup de jeunes chefs qui mettent du shiso, mais c'est cette plante qui. Il y a un goût très herbacé.
Un petit peu acidulé, herbacé.
Un peu acidulé. Et franchement, le mélange fait quelque chose de très frais, très très agréable, quoi. C'est fondant, c'est acide. Plus, il y a un petit peu d'ail noir aussi, qui apporte un peu le côté umami de la chose.
Légèrement fumé, voilà.
C'est ça, un peu.
Umami, c'est la petite saveur en plus.
C'est ça. C'est
parce qu'on connaît l'amer, le salé, le sucré, l'aigre.
Et qui joue un petit peu sur tous ces tableaux, en fait, c'est ça. Hein, c'est un peu ce mélange qui joue sur tous les tableaux, l'umami.
Oui, l'umami, c'est l'équilibre des saveurs.
Ouais.
Alors, l'umami qui porte un nom japonais, parce qu'effectivement, ça a été remis au goût du jour par un japonais. Mais attention, c'est un français qui a pour le premier parlé de cette saveur supplémentaire, donc cocorico, hein, quand on peut, on le fait.
Mais comment savez-vous tout ça, Manuel ?
Je bosse.
Un passionné.
Et donc l'umami, effectivement, c'est un français.
Ouais.
Mais alors, donc effectivement, un plat, enfin une entrée.
Une deuxième entrée, tout en légèreté, ça aussi, c'est très agréable, quoi.
Alors après, nous sommes passés sur des pâtes parce que donc il y a des pastas qui sont faites maison. Alors là, c'est la touche italienne de ce chef japonais.
Oui. Hein. C'est même peut-être le plat dont on va parler. C'est même peut-être le plat le plus italien que. C'est effectivement, on peut se retrouver. On aurait pu se retrouver dans un très bon italien.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Et se retrouver quoi.
Alors c'était. D'ailleurs, ça faisait presque. C'était des spaghettis au calamar, céleri, tomates séchées, capres, olives calamata et poutargue. Et ça faisait presque figure d'ovni un petit peu dans le.
C'est vrai.
Dans le repas parce que on était sur du très créatif japonais, un peu élégant, etc., etc. Puis là, on est passé un peu dans le rustique traditionnel.
On est totalement dans un plat de pâtes traditionnel. Il y a beaucoup de goût. Ce qui est sympa, c'est qu'en plus, légèrement râpé, il y avait de la poutargue ou la botarga en italien.
La botarga.
Et ça fait une sorte de. Ça renforce le côté mer du calamar, quoi.
C'est quoi la botarga ?
La poutargue. Alors, ce sont des œufs de mulet, voilà, qui sont fumés, hein, la poutargue. Et puis, on mange ça en Grèce, par exemple, en Italie. Enfin, bon, voilà, c'est dans le Méditerranée.
À Marseille aussi, c'est la. Comment on appelle ça ? Qui ressemble un petit peu. C'est la. Ah ben non, c'est la poutargue justement à Marseille.
C'est la poutargue.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a la poutargue, la boutargue, enfin voilà, selon les endroits. Et ce sont des œufs, alors qu'on mange soit en petite. Moi j'aime bien le manger en petite tranchette sur du pain grillé avec un peu de citron.
Oui.
Mais sur des pâtes, par exemple, râpées, c'est super bon. C'est super bon.
Et en fait, oui, c'est ça, c'est, je crois qu'elle.
Enfin, que je vous remène au restaurant.
Là, c'était la version la plus sèche, effectivement, pour pouvoir le râper. C'est la version la plus sèche pour pouvoir le râper bien. Et voilà, ça apporte vraiment. C'est un côté très très mer, mais qu'est-ce que c'est bon ça aussi.
Ouais, des spaghettis qui étaient remarquablement bien cuits.
Oui, c'est ça.
Dans ma mémoire, ils étaient bien al dente.
Ah oui.
Et des espèces de tagliatelles de calamar. Hein, c'était des filaments de calamar coupés en tagliatelles qui étaient très moelleux.
C'est ça. Ça fait penser un petit peu. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. C'est Jean-François Piège qui fait un plat de calamar comme ça avec.
Vous aussi, vous êtes calé quand même.
Dis donc.
On a affaire à deux passionnés
vous me flattez.
C'est un peu notre métier.
C'est ça.
Non, c'est Jean-François Piège qui effectivement un plat de calamar avec l'œuf au milieu. Comment ça s'appelle? Rappelez-moi, vous ne voulez pas de calamar?
Eh ben non, parce que
j'ai un trou, c'est pas grave.
Figurez-vous, je ne suis pas encore allé manger dans le dernier restaurant de Jean-François.
Eh ben on ira ensemble.
Eh ben absolument, voilà, ça c'est dit, on prend rendez-vous. Alors oui, effectivement, donc un très 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 bon plat et qu'on a suivi d'une deuxième
pasta.
Pasta.
Eh oui, deuxième plat de pâtes.
C'est comme ça, on est comme ça, nous. Alors, des tagliatelles à la carbonara, shimeji et truffe d'été. Alors, truffe d'été, bon, ça, la truffe...
C'est une truffe italienne, je crois, aussi. Hein.
Oui, oui, qui était une truffe d'été italienne, effectivement.
Ouais. Qui n'était pas trop forte, et ce qui est bien, c'est que souvent, la truffe, ça peut vraiment un goût qui peut avoir emporté, quoi. Et là, c'était... Non, c'était très bien. Il y avait un petit côté... En plus, il y avait des shiitake, je crois, aussi, dedans.
Alors, c'était des shimeji. Justement.
Ah, des shimeji, ouais. Pas des shiitake.
Des shimeji, oui.
Qui sont aussi un champignon un peu en longueur, blanc, etc. Et là, ça a apporté la véritable originalité au plat aussi, avec la truffe blanche.
Alors, une vraie carbonara, c'est-à-dire dans une carbonara, je rappelle, il n'y a pas de crème fraîche. Hein. Je vais peut-être faire tomber un mythe. Hein, mais voilà. Mmh. Eh ben voilà, par exemple, Isa vient de découvrir qu'il n'y avait pas de crème fraîche dans les carbonara. Il n'y a jamais de crème fraîche dans les carbonara.
Les chefs italiens, quand tu leur parles carbonara en France, ils s'arrachent les cheveux, quoi. C'est
absolument, ouais, non, c'est... non, non, non. La carbonara, il n'y a pas de crème fraîche. Hein, c'est absolument.
Tout se fait avec le jaune et l'eau de cuisson. En
voilà, le jaune et un petit peu d'eau de cuisson des pâtes qu'on met dedans pour faire le liant. Voilà. Et comme il y a de l'amidon des pâtes dans l'eau de cuisson, ça fait le liant, en fait.
Et par contre, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile à réaliser. Moi, j'ai essayé une fois d'en faire, c'est quand même pas simple parce qu'il faut avoir la maîtrise.
Voilà, faut pas cuire le jaune d'œuf, voilà. Parce que quand on met l'eau de cuisson chaude sur le jaune d'œuf, on risque de faire une omelette.
Hein. C'est ça.
Voilà.
Les œufs brouillés.
Bon. Et souvent, t'as un
c'est
plat.
Pas la même recette.
Voilà, donc c'est pas très simple.
Donc, Isa, il va aussi falloir que je vous emmène manger une vraie carbonara.
Donc, je vais prendre 100 kilos, c'est officiel.
Oui, non, moi, je les ai déjà pris. Je vais en reprendre 100 de plus.
Denim Brasil a fait très bien dans son restaurant Ida. Qui est à côté de la gare Montparnasse.
Absolument.
Si vous avez 2 heures à tuer quand vous passez à la gare Montparnasse, vous allez manger chez Ida. C'est très très bien aussi.
C'est très très bon. Et puis il y a son deuxième restaurant aussi.
Epoca.
Epoca, qui est dans le 7e. Oui. Dans une rue perpendiculaire, dont j'ai oublié le nom, mais qui est perpendiculaire à la rue Pierre Leroux, où il y a aussi un chef japonais qui fait de la cuisine italienne d'ailleurs.
Oui.
Qui s'appelle L'Inconnu.
Ouais, c'est très bien. Non, c'est là, effectivement, on y mange une très bonne carbonara.
Absolument. Absolument. Bon, on a des fans de la carbonara. Alors après, on a mangé un petit peu de viande et on a. D'ailleurs, on l'a vu à une table à côté. On a dit oui, qu'est-ce que c'est joli. Puis on a eu du bol, on en a eu.
Oui.
Parce qu'on savait.
C'était de l'agneau.
Hein, comme c'était le menu carte blanche, on ne savait pas ce qu'on mangeait et c'était de l'agneau. Alors un carré d'agneau avec des légumes de saison grillés, des grains de moutarde marinés au mirin et une sauce au marsala.
Le mirin, c'est un vinaigre sucré japonais. Hein.
C'est ça, oui, absolument. Et carré d'agneau, alors une cuisson parfaite.
Ça aussi, tu vois que la maîtrise des cuissons. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Je suis tout feu, tout flamme quand on me parle de ce restaurant. Non, c'est franchement, non, l'humaine, voilà, l'humaine, c'est quoi? Ça vient de la lumière. Hein. Voilà, bah, c'est ça, tout feu, tout flamme.
Ouais, non, effectivement.
Non, très bien.
C'était parfait. C'était parfait.
Et aussi, il y avait des petits shiitake là, par contre. C'est ça, il y avait des shiitake là, je me trompe pas.
Absolument. Ah. Là, il y avait des petits shiitake. Et on va parler du dessert juste après la pause.
Allez.
On va parler de la fin de notre repas parce que bon, il y avait aussi des petits macarons qui s'appellent des bachi di dama. On va en parler juste après. Et on se retrouve de suite sur Beurre FM dans les terrasses de Manu.
Les terrasses de Manu revient dans un instant. Les terrasses de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans les terrasses de Manu avec mes invités d'aujourd'hui, Isa Ferrer qui est avec nous et Fred Ricou. Alors Fred Ricou, donc on arrivait au dessert donc, de notre menu dégustation donc au restaurant Le Lumen, à l'hôtel Lumen.
Voilà, comme dit Danny Boone, on était chaud mais pas fatigué, donc on a continué.
C'est ça, absolument. Et alors en dessert, donc un ananas rôti glace au miel, yaourt grec et huile d'olive parfumée à la coriandre.
Oui. Alors, tout est très très bon. Hein. C'est l'ananas, la glace miel était vraiment bonne, etc. C'est un dessert qui a du goût. Hein. Et ce qui est étonnant, c'est vraiment cette huile de coriandre. Parce que l'huile de coriandre, c'est vrai que c'est très. Déjà, la coriandre, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça.
C'est la coriandre qui est infusée dans l'huile d'olive. Voilà, c'est très, très, très spécial, très agréable.
Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément fans de coriandre. C'est un goût qui est très spécial. Il y en a qui comparent ça à de la punaise écrasée. Donc, donc c'est sûr que ça donne pas forcément envie comme ça. Quoi. Mais non, en fait, c'est très bon. Quand on aime la coriandre,
c'est très bon, la coriandre en plus.
La coriandre juste sur des côtelettes d'agneau, juste grillées, un peu de coriandre, c'est fantastique. Bref, ça pour dire que. L'huile d'olive, effectivement, donc dans un dessert, déjà c'est intéressant. Et tout ce mélange avec l'ananas qui était très bien rôti lui aussi, hein, très bien cuit, sa maîtrise. Et la glace au miel qui était très bien faite, c'est un très bon dessert. C'est pas trop sucré. Hein. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que comme l'ananas c'est un petit peu acide, avec le côté sucré de la glace au miel,
Un bon équilibre.
Il y a un très bon équilibre, ça matche très très bien.
Et puis bon, comme on a pris un petit café quand même pour se réveiller, hein, parce qu'on était parti pour faire la sieste là, après un tel menu.
On n'est pas allé tester l'hôtel par contre.
Non, on n'a pas testé l'hôtel. Nous avons dîné en tout bien tout honneur. Et donc, on a conclu sur des mignardises. Alors, il y avait des bachi di dama au thé vert matcha. Donc, c'est des espèces de c'est entre la meringue et le macaron, hein, un petit peu.
Oui, c'est très bon. C'est très sympa pour finir
très
le
sablé.
Repas.
Et une truffe chocolat yuzu passion.
Oui, ça c'est très frais. Alors finir là-dessus, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'entre la passion et le yuzu, tac, ça vient un petit peu te... En fait, ça te réveille avec le café. Le café, ça va te réveiller un peu plus tard parce que le temps que la caféine fonctionne. Et là, la passion avec le yuzu, tous les deux sont un peu acides. Tac, ça t'apporte un petit quelque chose. Non, finir là-dessus, tu fais « Ah, c'est bien !»
Bon, alors votre verdict, un repas bon, pas bon, excellent?
Je crois que ça s'est entendu hein, depuis un quart d'heure que je parle à tout va.
Alors apparemment excellent, mais alors oui, l'excellence a un prix quand même. Donc pour ce dîner fleuve, hein, si vous voulez vous faire plaisir, oui, c'est un menu dîner carte blanche qui est facturé 85€. Il y a également un menu en quatre temps avec une entrée, des pâtes, viande, dessert qui est à 65€. Sinon vous avez au déjeuner des formules à 32, 36 et 48€. Donc avec une cuisine du même niveau, donc bonne affaire.
Non, c'est très correct, non, franchement c'est très correct.
Bonne affaire, rapport qualité-prix impeccable. Et donc le Lumen, c'est 15 rue des Pyramides à Paris 1er. Le numéro de téléphone 01 44 50 77 00, 01 44 50 77 00. C'est fermé le dimanche et le lundi. Et le service est de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. Donc le Lumen, 15 rue des Pyramides.
Et c'est un très joli restaurant.
À Paris 1er, oui.
Je sais pas si on l'a dit.
Et service très sympa.
Le service est très sympa. Le patron justement veut quelque chose qui soit pas guindé, alors que dans le quartier on pourrait faire quelque chose d'un peu plus guindé. Il arrive sans cravate, etc. Mais vraiment avec voilà à la fois c'est
un directeur de salle très sympa,
politesse, très sympathique,
une sommelière serbe et italienne,
oui,
avec un accent qui fait voyager. Voilà.
Et franchement très très bonne surprise, enfin très bonne surprise. Avec votre invitation, très beau lieu.
Voilà,
comme Grand Cœur qu'on avait fait la dernière fois.
Absolument.
Voilà, c'est toujours
absolument
un plaisir.
Et là, c'était sur un air légèrement japonais.
Vivement le prochain, Manuel.
Et voilà. Et du Japon.
Lance le truc comme
absolument
ça.
Absolument. Et du Japon, on va passer à la Chine avec Isa.
Oui.
Alors, Isa Ferrer, nous sommes allés dans un restaurant qui s'appelle le Lys d'Or. Mm-hmm. Le Lys d'Or qui est deux rue de Chaligny, dans le 12e. Et donc, c'est un restaurant qui existe depuis une trentaine d'années. Alors, vous, la cuisine chinoise, c'est quelque chose que vous aimez bien, vous me l'aviez dit, mais est-ce que vous aviez déjà mangé de la cuisine chinoise gastronomique?
Non, franchement c'était la première fois et agréablement surprise, parce que c'est vrai quand on se dit on va manger chinois, je connaissais plus le chinois que tout le monde a dans sa rue.
C'est ça, oui.
Donc, on va
chinois
manger
du
des nems.
Bas de la maison.
Voilà, exactement.
Des nems qui ne sont pas chinois d'ailleurs, mais vietnamiens.
Voilà, donc tout faux.
Je le précise.
Mais non, c'était la première fois et vraiment très, très, très agréablement surprise. Déjà par l'accueil, parce que quand on est arrivé, Madame Chen,
oui,
avec un grand sourire,
Madame
nous
Chen
accueille dans un havre de paix. J'ai adoré le décor, en fait, du Lys d'Or. On arrive, c'est un petit peu un jardin zen. Entre le jardin zen et le jardin exotique, il y a des fleurs, enfin des
plantes
vertes
partout, oui,
partout
on est
qui tombent
dans
du
la...
plafond. Il y a des petites fontaines. Donc on entend tout au long du repas un petit clapotis,
des petits
glouglous de l'eau de la petite fontaine à côté. Donc ça donne un côté très 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 zen. Et cet univers de forêt exotique, tropicale, j'ai vraiment beaucoup aimé déjà le décor.
Ouais, non, c'est vrai que... Alors, les terrasses de Manu, bon, effectivement, on a parlé du Lumen. On n'a pas trop parlé de la terrasse parce que nous, il faisait pas très beau quand on y est allé.
Oui.
Donc on avait mangé à l'intérieur, mais il y a une très belle terrasse qui est à l'arrière du restaurant. Je suis obligé d'en parler deux secondes parce que c'est une terrasse qui est entre l'église Saint-Roch et l'arrière de l'hôtel. Donc, qui est super
c'est
calme.
Très, très calme.
Il
n'y
a pas de circulation, etc. Et au Lys d'Or. Alors, effectivement, il n'y a pas de terrasse, mais je l'ai quand même inclus dans les terrasses de Manu parce c'est vraiment un petit jardin.
Ah, bah, c'est un intérieur
luxuriant,
extérieur, quoi.
Ouais.
Et moi, je suis très sensible justement à la déco. Et je trouve que c'est gagné parce que ce que je disais aussi hier à Madame Chen, c'est que c'est un grand restaurant, il y a beaucoup de tables, et finalement, chaque coin est aménagé assez intimement.
Il y a des petites alcôves, voilà, des petits espaces.
Ça n'est pas du tout cantine chinoise, mais alors pas du tout. La déco est très raffinée, très soignée.
Alors, on parle de Madame Chen, mais il faut aussi parler de Monsieur Chen, Monsieur Chen, Shimin Chen, qui est le patron du Lys d'Or, donc l'époux de Madame Chen, et qui est qui est un grand chef de cuisine, qui est très réputé en Chine, qui a fait beaucoup de concours de cuisine assez prestigieux en Chine. Et donc, sur la carte, il y a certains plats et certaines entrées, etc., qui sont des créations. Alors là, c'est de la cuisine d'inspiration, de goût chinoise, avec un goût chinois, mais qui sont des recettes qui ont été inventées par Monsieur Chen. Et d'ailleurs, sur les entrées, donc, bon, après, pour les plats, on a goûté des choses un peu différentes, mais sur les entrées, on a goûté des créations de Monsieur Chen, notamment la fleur de zen.
Fleur de zen, déjà, donc, rien que le nom nous parle.
Absolument. Qui a été un plat qui a été médaille d'or à Shanghai dans un concours en 2006. Alors, ce sont des noix de Saint-Jacques, des crevettes grillées sur un lit de courgettes et d'aubergines avec une sauce zen.
Bah, déjà, la présentation du plat. Je sais que Manu, tu as fait de très très belles photos.
C'est vrai.
Hein, en mettant la fleur un peu à l'envers des fois, mais bon, ça c'est pas grave.
Ça c'est pas gentil ça.
Je balance. Absolument. Non, déjà la présentation c'est beau, on a envie de goûter. Enfin, on regarde, on se régale avec les yeux et avec le palais après, parce que c'est vrai que c'est très très fin. Les quantités, pareil que dans votre restaurant, c'était pas énorme, mais largement suffisant parce qu'on a enchaîné. Et c'est vrai que tout était très fin, la sauce était... C'était une sauce très légère et on a fait quand même une thématique un peu noix de Saint-Jacques.
Oui, c'est vrai. Beaucoup de fruits de mer. Oui. Parce qu'on a pris une deuxième entrée, alors là, qui était médaille d'or à Dalian en 1998. C'était les 7 trésors de la fleur de lotus. Alors, dedans, il y avait de la noix de Saint-Jacques, des crevettes fondantes, des légumes croquants, des noix de cajou. Et c'était servi dans une corolle légèrement croustillante.
C'était très surprenant parce que je trouve qu'on ne s'attendait pas à avoir comme ça des légumes al dente, tièdes, à l'intérieur de cette corolle, et j'ai trouvé cette entrée très très surprenante.
Oui, alors en parlant de légumes, on a aussi goûté des légumes croustillants à la chair de crabe, qu'on trempait dans une petite sauce légèrement...
Ce qui ressemblait au tempura, justement.
Exactement, oui, qui ressemblait au tempura japonais, donc une pâte très légère autour.
Ouais. Hein. Ouais. Et pas très gras.
Non, pas
Désolée,
gras du
Michel,
tout.
Alors, tu fais attention à ma ligne, donc je...
Oui, non, mais... Alors que non.
Vous êtes sorti en roulant du
Je ne vois pas de quoi
restaurant.
Vous voulez parler.
Pas moi. Donc, non, c'était bien. Je trouvais ça très léger. Et j'ai été surprise par la sauce. Parce que je m'attendais à quelque chose qui allait un peu plus être fort, enfin
oui,
puissant.
Oui, pimenté, alors voilà. Pas du tout. Ouais.
Quand on voit cette sauce rouge arriver, on se dit...
Aïe,
c'était très, très légère. Donc, elle n'emportait pas la bouche. Et du coup, on avait bien le goût de... Du beignet.
Mmh. Ouais. Et une sauce un peu aigre-douce avec des petites saveurs de gingembre.
C'est
un
ça,
peu
c'est ça, oui.
Voilà, c'est pas les sauces aseptisées qu'on a l'habitude d'avoir.
Si nous brûle le palais, on n'a plus rien derrière, le goût est complètement foutu. On sent plus rien.
Alors ça d'ailleurs, se brûler le palais, on va en parler à la fin, parce
c'est
que Monsieur Chen nous a fait un petit cadeau de fin de repas. Il a voulu nous faire goûter un plat
explosif
dont nous parlerons après. Mais il se trouve que le Lys d'Or en fait vient de lancer une nouvelle carte, et dans cette carte il y a la plupart des plats qui sont servis soit sur plaque chauffante. Pour les plats qui ont besoin d'avoir une sauce bien concentrée, avec une saveur bien concentrée, soit en cocotte, enfin en hot pot, en marmite, pour des plats effectivement qui ont une sauce plus légère. Alors c'est Monsieur Chen et Madame Chen, ils ont basé ça un petit peu sur le yin et le yang, donc il y a effectivement, c'est assez intéressant comme démarche, parce qu'il y a une partie des plats donc qui sont plus yin, d'autres plus
c'est
yang.
C'est ça, et puis la présentation toujours. Quand on arrive avec une cocotte ou quand on arrive avec une plaque chauffante, c'est pas pareil. Faire griller comme ça devant nous, finir la sauce pour qu'elle soit bien caramélisée, c'est original et ça
Alors
fait
justement,
partie du.
Cette spécialité sur plaque chauffante, on a goûté les tendres aiguillettes de canard grillé avec une sauce somptueuse au poivre noir et au poivre de Sichuan.
Ouais.
C'était donc juste les aiguillettes. Donc les aiguillettes, attention, c'est pas le filet, hein, c'est pas le magret de canard, mais c'est juste ce petit.
La chose rare.
espèce de filament là, voilà. Et donc du coup, comme il y en a que deux par canard, c'est un plat qui ne peuvent servir qu'en quantité limitée, qui était effectivement assez surprenant, une sauce très capiteuse, on peut dire.
C'est ça, moi j'ai trouvé que c'était très caramélisé, mais pas dans le côté trop sucré, mais dense. Justement, c'était ce côté où la saveur était au maximum. Et j'ai beaucoup aimé ce plat.
Parce que les cuillettes de canard étaient sur une plaque chauffante.
Très
la
tendre.
Sauce était à part dans une saucière.
C'est ça.
Et quand la sauce est versée dessus, elle réduit d'un coup.
D'un coup, bah oui, avec la chaleur.
Et ça caramélise avec ça. Les aiguillettes. C'était, c'était effectivement très, très surprenant et très agréable. Un très bon plat. Alors, ensuite, on a testé des spécialités en cocotte ou en marmite, notamment le guofan. Alors ça, c'était assez agréable, parce qu'en fait, dans la cocotte, il y a aussi le riz. C'est-à-dire
tout est mélangé, en fait, dans la cocotte. Il y avait de la noix de Saint-Jacques aussi.
Des noix de Saint-Jacques, des moules, des crevettes, des calamars, des légumes.
Oui.
Tout ça dans une cocotte. Et puis, au dernier moment, on rajoute du riz dedans.
Oui.
Et donc, le riz boit un peu la sauce. Et ça je sais pas, on peut... Est-ce qu'on pourrait parler de paella chinoise? Je sais pas.
C'est ça, en fait... À première vue, ça ressemble un peu à un plat familial sans chichi. Enfin, c'est dans la cocotte, ce riz mélangé, ça fait un peu, grosse paella.
Ouais.
Mais le goût, c'est toujours le goût est très fin. Donc en fait, là, c'est le côté visuel l'emporte pas parce que c'est vrai que il faut goûter. Faut certainement pas s'arrêter à ce qu'on voit.
Ouais,
et c'est moins spectaculaire, c'est moins esthétique.
Oui, c'est moins esthétique, mais c'est quand même très bon.
Voilà.
Et un autre plat qui était un peu moins esthétique, évidemment, parce que c'est servi en sauce, en cocotte, c'était l'agneau sauté au poivron rouge et vert, échalote, ciboulette, menthe, curry rouge.
C'était très, très
légèrement relevé. Et ça, c'était très bon aussi. Mais alors, le petit cadeau de fin de repas
de Monsieur Chen,
c'était un bœuf pimenté à la façon de Sichuan.
Merci beaucoup, Monsieur Chen.
Et là, je veux dire, on a eu un soin de la peau gratuit.
Là, on a eu tout.
Ça ouvre
on a
bien
eu
les
un masque, on a eu les sinus débouchés.
On a croisé le dragon.
Voilà.
Ouais. Et alors,
on a craché du feu.
Absolument, oui, absolument. Et donc, on va devoir conclure malheureusement, mais on va quand même donner l'adresse du Lys d'Or. Alors, le Lys d'Or, c'est 2 rue de Chaligny à Paris 12e. Le numéro de téléphone 01 44 68 98 88. C'est fermé le lundi et le service est de 12h à 14h30 et de 19h à 23h. Alors, votre verdict sur le Lys d'Or?
Ben moi, personnellement, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié.
D'accord.
Dans sa totalité.
Donc vous validez le
décor. Je valide complètement le menu, le décor, l'ambiance, le chef, Monsieur Chen, donc je survalide.
D'accord, donc essayé et approuvé par Isa Ferrer.
Exactement.
Dans les terrasses de Manu. Merci Frédéricou.
Avec
donc,
plaisir.
On peut vous retrouver sur... 7detable.com. Isa Ferrer, on peut acheter votre single.
Nessus X, bien sûr.
Et si on l'achète sur votre site, je crois qu'il y a des goodies en plus.
En plus, et puis sinon, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement légales.
Évidemment.
Voilà.
Légales, on précise.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous dans les terrasses de Manu. Dans un instant, je reste avec vous pour les petites annonces.
Merci à toi.
Et donc, si vous voulez vendre quelque chose, Fred, Isa, si vous avez un canapé à vendre, une Twingo ou autre, vous restez avec nous, on prendra votre annonce en direct. À tout de suite.
Les terrasses de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.